Je vais vous présenter le livre de Vincent Delecroix qui s'appelle « Apprendre à perdre ». Alors juste deux mots sur ce jeune philosophe. Il est né en 59 à Lille. Il a suivi un parcours classique par l'ENS, devenu agrégé, fait sa thèse sur Kierkegaard et enseigne à l'école pratique des hautes études. Il a déjà une petite bibliographie intéressante, à la fois faite d'ouvrages de philosophie et de romans. Et les deux sont liés parce qu'on s'aperçoit que la question de la perte déjà apparaît dans les romans. Donc, apprendre à perdre. Donc, c'est un livre qui est paru en 2019 dans la collection Payot Rivage. C'est un livre de 270 pages. Alors, pourquoi cet ouvrage ? Parce que c'est un philosophe connu et reconnu, que j'avais déjà lu un ouvrage qui s'appelle « Non » sur la question de la révolte. C'est un style accessible et il présente une approche critique de la modernité et des idées à la mode. En un mot, je suis entré dans ce livre parce qu'il paraît répondre aux attentes de la philosophie, déjouer les clichés du politiquement correct et de la pensée dominante. Pour vous donner une petite idée de ce livre présente une phénoménologie de la perte conçue comme vécu fondamental de l'existence. C'est un livre qui est composé de 14 chapitres, mais il n'y a pas d'introduction, pas de conclusion, pas de bibliographie. Donc il s'écarte un petit peu de la présentation universitaire. Ces chapitres forment une sorte d'archipel dans lequel on visite différents aspects de ce qui est une crainte obsessionnelle qu'il faut conjurer à tout prix, la question de la perte. Alors c'est un livre extrêmement riche. L'auteur puise ses exemples et ses arguments dans la mythologie, toutes les mythologies, dans l'histoire religieuse, dans la culture, la littérature, le cinéma, et naturellement dans la philosophie. Les références qui sont faites sont à Marx, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Gunther Anders, Georges Bataille, Heidegger et Lévinas. L'enjeu de cet ouvrage est de nature morale, en fait. Et chaque aspect de la perte est abordé sous trois angles qu'on retrouve dans chaque chapitre. Le premier, c'est un versant anthropologique, c'est-à-dire qui nous confronte au vécu le plus commun, le plus quotidien de la perte, le plus familier, perdre un objet, perdre son chat, perdre un proche, etc. Un deuxième versant, c'est un versant plus critique et plus philosophique, dans lequel on aborde les préjugés concernant la perte, par exemple faire son deuil, commémorer l'histoire, le devoir de mémoire, etc. Cette analyse philosophique fait apparaître l'épaisseur problématique de la perte, constitutif de l'humain et la manière dont on a de conjurer ou d'occulter la perte. Et puis un troisième versant, c'est le versant éthique, car il s'agit d'apprendre à perdre, c'est-à-dire de s'approprier les enjeux de la perte et non de les refouler. La perte est donc à comprendre comme un fondement de l'existence. Alors, c'est très difficile de présenter un ouvrage comme ça, parce qu'évidemment, toute la richesse de l'ouvrage nous échappe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les premiers chapitres pour vous donner une idée des thèmes qu'il aborde. Ensuite, je vous citerai plutôt les chapitres que je n'aborderai pas. Et puis, je conclurai avec les deux derniers chapitres qui me paraissent être intéressants à d'autres titres. Faut que je regarde le temps.
Il y a 4 minutes écoulées.
Bon, ça va.
4 minutes 50.
D'accord. Alors, l'ouvrage commence avec l'épisode de Énée. aîné qui descend au royaume des morts avec son rameau d'or. Et c'est là qu'il retrouve ceux qu'il avait perdus, à savoir son père, la belle Didon qu'il a abandonnée à Carthage, mais aussi toutes les personnes qui sont mortes des générations futures. C'est-à-dire qu'il rencontre à la fois le passé et le futur. Et donc la leçon de ce mythe, c'est deux choses. Le lien qui nous relie au passé et au futur, et c'est la raison pour laquelle nous sommes attachés aux origines, quitte à les fantasmer, autour d'obsessions de la pureté originelle. Et deuxièmement, deuxième leçon, c'est que le rameau d'or, donc le mythe du rameau d'or, c'est l'outil magique qui permet de revenir parmi les vivants. L'enseignement, c'est que notre espace social, finalement, est plein de petits enfers où circulent des fantômes, plus ou moins en transit, des revenants que l'on repousse ou que l'on convoque. Bref, il n'y a pas de société humaine qui ne soit hantée. Il faut apprendre à vivre avec nos fantômes et trouver le rameau d'or qui permet de prendre place parmi les vivants. Voilà un petit peu la leçon de ce premier chapitre. Alors, la peur de perdre, c'est la grande affaire de la sagesse antique. C'est le deuxième chapitre. Alors, je vais vous faire un... Voilà. Donc, comme si c'était perdu. Pour la sagesse antique, l'idée, c'est de trouver un pharmacon, c'est-à-dire un remède qui concilie la vie et la présence de la perte. Par exemple, pour le stoïcisme, la peur de perdre est régie par la grammaire du « comme si ». Quand on vit, eh bien, on fait comme si la vie ne va pas durer et elle s'efface si l'on considère que la perte a déjà eu lieu ou qu'elle est déjà là. Donc, pour le stoïcien, s'accommoder de la perte, c'est faire vœu de pauvreté et de renoncement. Troisième chapitre, qui s'appelle « Physique et économie de la perte », programme pour une philosophie de la perte, eh bien, c'est l'époque moderne. Le problème est de comprendre le négatif de la perte. Comment situer ce négatif dans une exigence de rationalité? Donc, le traitement de la perte relève de trois approches. Donc là, effectivement, il fait appel à des références, à des auteurs. Trois approches. Premièrement, la perte est inévitable, elle fait partie du système, on l'accepte comme telle. Deuxième option, il faut la contrôler, la gérer, la minimiser pour éviter qu'elle parasite le système. Et troisième option, elle constitue un dérèglement, une anomalie, elle crée un malaise, elle génère de l'angoisse, un effet de hantise qui s'exprime à travers des mécanismes de défense et la perte devient un secret honteux de l'homme, le spectre d'une impossible théodicée. Alors aujourd'hui, cette problématique de la perte prend la forme de l'entropie, c'est-à-dire que le progrès ne peut plus masquer l'entropie de la société, car à la fin, tout est perdu. Donc on assiste à la vulnérabilité de la planète qui entraîne la mise en danger de l'humanité. La perte est visible à travers des signes inquiétants de la course à l'abîme et la nouvelle conscience du prix exorbitant de l'optimisation du profit. En résumé, la philosophie de la perte, c'est le négatif du profit, le secret enfin révélé de l'économie générale, l'horizon d'une perte totale et de la fin de l'aventure humaine. Donc voilà ce troisième chapitre. Le quatrième chapitre, c'est l'objet perdu. Et donc là, il commence ce chapitre avec un épisode de l'opéra de Mozart qui s'appelle Les Noces de Figaro. Voilà. Et donc, dans Les Noces de Figaro, il y a l'opéra d'Outa. C'est l'histoire de Barberine qui a perdu une épingle. Et tout ça, c'est un drame. Parce qu'aucune perte n'est insignifiante. Une perte peut cristalliser un ensemble de symboles indéfinissables à l'infini. Et l'immense chagrin de Barberine n'est pas une exagération théâtrale. Il touche à la nature de la perte. Et ça veut dire trois choses. Premièrement, que la perte est expansive à l'infini. le sujet devient inconsolable parce que ce qui est perdu fait partie du monde, c'est-à-dire de l'infini, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, c'est la fin du monde. Deuxième chose, le choc de la perte, c'est son imprévisibilité. On ne peut jamais prévoir la perte. C'est ce qui en fait un événement absolu, une forme de chaos qui impacte le temps et l'espace et la relation au monde. L'expérience de la perte bouleverse tous les repères de l'existence. Et troisième chose, la perte est toujours une épreuve de la passivité, c'est-à-dire quelque chose qui nous échappe, elle est toujours subie, elle exige un remaniement du sujet afin de rétablir les prérogatives du sujet agent. Voilà pourquoi la perte n'est jamais un événement anodin, elle renvoie à un certain apprentissage du sujet à la reconquête de sa relation au monde. Voilà, j'essaie de résumer de façon extrême les 4 premiers chapitres, qui font un peu moins de 100 pages. Les 10 chapitres qui suivent sont tout aussi passionnants, je vais juste les énumérer. Le 5e chapitre, c'est avec Roland Barthes, le travail du deuil. Qu'est-ce que c'est que le travail du deuil ? Le 6e chapitre avec Merleau-Ponty, qu'est-ce que c'est que l'expérience du membre fantôme ? Vous savez, quand on a perdu un bras et qu'on a encore la sensation de ce membre. Ensuite, avec Balthus et Rilke, la perte du shamitsu, c'est-à-dire la question de l'imaginaire de la perte. Ça, c'est une aventure avec Balthus, qui étant enfant, ayant perdu son petit chat, envoie une lettre à Rilke qui lui répond, etc. Alors, avec les poètes et les historiens, les divers hommages qu'on peut entendre, est-ce qu'on entend la voix des morts ? 9e chapitre avec Dante et Descartes, la métaphore de celui qui s'égare dans la forêt obscure, qu'est-ce que se perdre ? 10, avec le goût des ruines, l'obsession de la conservation à l'identique, notre rapport au patrimoine historique, et là aussi, qu'est-ce que ça dit de la perte ? Avec Richard III de Shakespeare, la découverte de la souveraineté sous-jacente, quand on perd tout pouvoir, qu'est-ce qui nous reste ? Et puis chapitre 12 avec Victor Hugo et le cinéma des frères Cohen, comment édifier une philosophie du perdant, comment mettre à distance un mode de moralisation hédoniste. Alors toutes ces interrogations autour de la perte donnent un aperçu des dimensions subjectives et proliférantes de ce concept. Donc pour compléter, je voudrais aborder deux aspects originaires de la perte. L'un, alors je les ai relevés parce que ils sont tout à fait originaux. Un, c'est sur l'institution de la justice. Et le deuxième, c'est sur le vécu existentiel de l'être au monde. Donc, 13e chapitre, la perte, dit-il, est à l'origine de la justice. Et elle est à l'origine de la justice, justement, dans l'institution du talion. Alors, le talion, on sait que c'est quelque chose qui aujourd'hui ne fait plus partie de notre philosophie. Mais néanmoins, elle inaugure l'ordre du droit. En ce sens qu'elle établit une limite, elle édicte un principe d'équivalence entre la perte, le préjudice et le châtiment. Donc le talion inaugure un principe de raison qui est au fondement du droit, sauf que le droit n'est pas la justice et que la tâche du juge consiste à évaluer et compenser une perte, autrement dit, s'inscrire dans une mission impossible. Toute substitution est impossible. Le droit ne peut proposer qu'un échange, et un échange sur la base d'un équivalent marchand. Donc la raison juridique consiste à se faire une raison, alors que la perte est toujours sans raison. Reste, au-delà de la justice, eh bien, l'espace, là, une marge pour décrire et assumer cette question de la perte, c'est la place de la consolation, la parole sensible à la perte qui se légitime à travers la compassion. Et donc, là, explique l'auteur, finalement, elle témoigne de la double illusion du langage, à savoir qu'il y a bien une relation, mais que cette relation sanctifie une séparation totale. Donc, on ne peut jamais éprouver la perte de l'autre. Au fond de la perte, s'il n'y a aucune justice qui ne peut la compenser, et même pas la résurrection, il ne reste que les larmes. Et sur cette question-là, il fait appel à la, il fait référence à Jésus, qui, avant de ressusciter Lazare, verse une larme. C'est au-delà de la justice et du droit la seule façon d'accepter la perte. Dernier chapitre. Dans le dernier chapitre, en forme de conclusion, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire, Delacroix évoque la perte en tant que dimension existentielle de l'être au monde. Il part d'un rêve d'un jeune patient de Winnicott, et dans ce rêve, l'enfant compte tous les indigents du quartier que ses parents recevaient rituellement chaque semaine. Tous étaient là, quand il les compte, mais il en manque un. Alors c'est le titre du chapitre, il en manque un. Ce un qui manque, c'est pour Vincent Delacroix le paradoxe de la complétude. Car ce qui manque, c'est ce qui ne peut être nommé. C'est une conscience trouble d'un manque indéfinissable. Le monde ne peut être complet, achevé, parfait, que parce que quelqu'un ou quelque chose manque ou a été perdu ou doit être perdu. C'est la loi du monde. Il faut que quelque chose soit perdu pour faire totalité. Car je vis sur la mort des autres, je suis un survivant parmi d'autres. Et c'est pourquoi je n'ai jamais fini de m'acquitter d'un manque qui hante ma conscience d'être, d'un présent absent, obscur, mais identifiable à l'exclu d'histoire du monde, cette perte, c'est la figure du laissé pour compte, de l'étranger, de l'errant, du migrant, du pauvre. Là encore, apprendre à perdre, c'est vivre avec ce qui manque, accepter ce qui est perdu, et c'est en même temps ce qui m'ouvre à la charité.